Bien, pour poursuivre cette matinée de travail, nous retrouvons le docteur Mathieu Lussmann, dont on connaît les qualités de sociologue, hein, qui aborde pour nous la thématique suivante, le suicide comme construction sociale, approche historique, sociologique et philosophique. Alors rassurez-vous, il ne va pas nous faire un cours, hein, parce que ça ne prendrait certainement plus de temps que les 20 minutes qui lui sont octroyées. Il y a une question sous-jacente à son sujet, c'est le suicide, en fait, peut-il être étudié comme une question sociologique, hein. Intéressant, car dans cette bonne ville qui est Épinal et qui a vu naître Émile Durkheim, on se souvient que l'un des fondateurs de la sociologie moderne est l'auteur d'un livre intitulé « Le suicide », écrit en 1897, où il défend l'idée que le suicide est un fait social à part entière. Alors l'affaire n'est sans doute pas aussi simple. Écoutons Mathieu Lussmann.
Oui, donc on m'a confié confié une tâche un peu redoutable, celle de parler du choix. Est-ce que le suicide peut être un choix ou pas? Et ce qui se suicide est-il quelqu'un d'aliéné, qui n'a pas de liberté, ça serait une liberté totalement illusoire, ou alors ce que le suicide, ça serait le signe de l'ultime liberté, du droit de disposer de sa propre vie. Et là, on voit tout de suite que si on rentre dans ce débat-là, et que si on va prendre position dans ce débat-là, on risque d'être dans des cases et des oppositions difficiles, avec des positions extrêmement tranchées. Le suicide, il y a absence totale de liberté, c'est totalement illusoire. Et de l'autre côté, l'être humain, puisqu'il est un être humain, qu'est-ce que c'est l'être humain, comme disait Camus, ou comme disait Crevel, on a le droit de disposer de sa propre vie. En tant que sociologue, j'ai envie de prendre un autre angle. Je trouve que c'est pas tant de trancher la question qui compte, puisque ça fait, j'ai envie de dire, quand vous lisez un bouquin sociologue qui s'appelle Jean Béchler, il a retracé l'histoire des écrits sur le suicide, et j'en dis que ça fait peut-être 2000 ans ou 2500 ans qu'on se pose la question, que les historiens, que les philosophes se posent la question, et on n'a pas trouvé la réponse, et qu'il y a autant d'arguments pour, autant d'arguments contre, et que je me dis, je ne suis pas meilleur que les autres, et que peut-être, en allant plus loin, que si on n'a pas trouvé la réponse, c'est peut-être parce qu'elle n'existait pas, et que ce qui compte, je pense en tout cas, en tant que soignant, ou si on veut faire la façon de suicide, c'est peut-être pas de trouver la réponse, mais de se poser la question. Et c'est ça que je vous propose, et de vous donner les éléments du débat, et après, je pense qu'avec ces éléments du débat, chacun, en son âme et conscience, pourra se positionner. Mais donc, moi, mon rôle plus modeste, c'est vraiment de dire, voilà, il y a des éléments du débat. Je pense qu'on ne peut pas faire, si on veut faire la prévention, se poser l'économie de la question, parce que ça a des implications dans la pratique. Parce que, bon, effectivement, ça serait passionnant. J'ai fait une thèse de 900 pages sur l'approche historique. Hein, j'ai 300 pages d'approche historique. Donc, je pourrais tenir beaucoup de temps là-dessus. Mais l'idée, vous avez compris que ma démarche, ce n'est pas de faire un cours, parce que je crois qu'il y a des bons bouquins dessus. Par exemple, sur l'histoire, il y a le bouquin de Minois. Sur la philosophie, il y a le bouquin de Gurlager, le suicide ou la mort libre. Vous trouverez ça. L'angle, c'est vraiment de dire, mais voilà, c'est des outils, des sciences humaines. Est-ce que, quelque part, ça peut m'aider à réfléchir à ma pratique? Comment je fais? Et surtout, vous avez vu mon souci, qui est de se dire, c'est compliqué, c'est complexe. Et je reviens sur ce mot complexe, parce qu'on a bien vu qu'il a surgi. La complexité. Et on est à l'époque de la complexité. Alors, on l'a entendu plusieurs fois dans la bouche de plusieurs intervenants. Et on a vu l'autre côté, ce que j'essayais de dévoyer, c'est qu'on aimerait tellement aussi en même temps des réponses simples. Donc toujours dans l'idée que faire la prévention du suicide, c'est aussi s'interroger sur ma posture, c'est m'interroger sur comment j'appréhende le problème. Donc se dire que c'est complexe, et pas se dire uniquement que c'est complexe, mais se dire aussi, deuxième question, se dire que c'est complexe, c'est facile. Mais la vraie question, c'est comment je peux gérer la complexité? Parce que des fois aussi, ça sera aussi ma conclusion, la complexité c'est bien parce que ça nous permet de voir la réalité, mais la complexité c'est aussi une violence. C'est-à-dire que vouloir tout voir, vouloir voir un sujet dans l'ensemble de ses dimensions, alors que, comme Dame le disait tout à l'heure, on a peu de temps, C'est aussi violent, la complexité. Donc, encore une fois, ne pas être dans l'injonction de prendre en charge les choses complexes, mais se poser la question, comment on peut gérer la complexité. Et je voulais un peu résumer, après on suit cette image-là, qui j'espère va vous parler. Qu'est-ce que vous voyez ? Je trouve cette image résume bien la complexité. J'ai pas entendu. Un visage ? Tout le monde voit un visage ? Voilà. Alors c'est... On a parlé à un moment donné, on a dit qu'il n'y avait pas un suicide, mais des suicides. Il n'y a pas une prévention, mais des préventions. Ce n'est pas la même chose de faire de la prévention, et c'est pour ça que cet après-midi, ça va se décliner des adolescents, des personnes âgées, des adultes. Hein, parce qu'aussi, une autre idée préconçue qu'on n'a pas travaillée, c'est le suicide fléau des jeunes, alors qu'on s'est bien aperçu que ce n'est pas vrai, mais on a cette représentation-là. Et donc, je me dis, on voit bien, j'ai parlé de logique en tension, donc cette capacité à voir à la fois le visage et à la fois la femme qui permet, à mon avis, d'avancer dans la prévention du suicide sans qu'on ressente ça comme violent. Alors, on l'a dit aussi en intervention, je crois qu'il faut d'abord prendre compte de ce que le suicide impacte sur nous. Et on l'a dit ce matin, je crois que c'est le premier intervenant qui a parlé d'échec. Il faut bien qu'on ait conscience que le suicide, c'est un échec. Et c'est un triple échec. C'est d'abord l'échec de la personne, effectivement, elle est dans l'impasse. Elle n'a pas trouvé d'autre solution que celle-là, à ce niveau-là. Mais c'est aussi l'échec de la famille, de l'entourage, qu'elle remet profondément en cause. Qu'est-ce que j'ai fait ? On se culpabilise. Et le deuil après suicide est le deuil le plus difficile à faire. Impossible. Et il y a même des gens, effectivement, qui se suicident. Le suicide est un facteur de risque pour les personnes. On parle même de survivants. Hein, au niveau épidémiologique, sachez qu'un suicide impacte 4 à 5 personnes. Donc, effectivement, c'est l'échec du groupe. Et j'ai vu des familles qui se délitent, il y a des divorces, des choses comme ça. Et puis, c'est aussi l'échec de la société. Hein, on a toujours, c'est ce que Durkheim m'a fait, d'ailleurs on peut discuter avec lui, je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord, mais on a dans l'idée d'une société un peu pourrie, comme si le suicide pouvait être un indicateur d'un état délétère de la société. On pourra en discuter, je pense que ce n'est pas aussi simple que ça, parce que Durkheim il a écrit des choses très intéressantes, mais il y a 100 ans, je crois que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'à un moment donné aussi, Durkheim disait que les sociétés plus pauvres protègent. Vous voyez, ce n'est pas si clair que ça. Mais en tout cas, le suicide interpelle la société, il faut absolument, on a besoin de trouver une solution. Et si on prend l'exemple du suicide au travail, on peut être dans l'employabilité, on peut pousser la modernité, on va augmenter la charge de travail sur les travailleurs, mais il y a une limite tout à coup, c'est quand quelqu'un qui se suicide. Et à ce moment-là, le suicide va servir de signal d'alarme et on va se poser la question de ce qui se passe dans l'entreprise. Mais à la limite, s'il n'y a pas le suicide pour nous dire, là, il y a un échec, on y va, on devient de plus en plus employable. Donc, le point de départ de la réflexion, c'est que le suicide nous trouble, nous interpelle, nous questionne, nous pose des questions existentielles. Et avoir que le regard clinique, qui me paraît à la fois essentiel, mais se limiter au regard clinique, sans poser les questions existentielles que nous pose le suicide, je pense que ça limite. Hein ? Et cette question existentielle nous pose, parce que le suicide, il touche au caractère sacré de la vie. Et ça nous interpelle en profondeur. Et donc, presque ce paradoxe, nous avons besoin de comprendre, de donner du sens à quelque chose qui ne semble pas en avoir. Comment peut-on détester la vie au tel point que de vouloir la quitter ? Donc on a bien vu que si la prise en charge médicale était importante, qu'on ne pouvait pas se limiter à cette prise en charge, qu'on ne pouvait pas se limiter au regard clinique, surtout que on va le voir tout à l'heure, en tant que soignant, je ne suis pas qu'un clinicien, je trouve qu'on a toujours plusieurs casquettes, mais quand je reçois quelqu'un qui est suicide, c'est vrai que je suis un soignant, mais je suis aussi une personne, je suis aussi un être humain, qui a des émotions, qui vit des choses, et je pense que c'est important d'en prendre compte. Et d'autant plus que, quand on réfléchit, les mots-clés de la prévention, c'est alliance thérapeutique, écoute, suivi, contrat, accompagnement, engagement, prise de recul. Donc ça veut dire que on est de plus en plus dans la médecine sur l'approche entrée patient. Hein. Je ne sais pas si vous savez, mais en France, on n'a qu'un seul mot pour dire maladie, comme si ce mot était simple pour le définir. Les Anglais, vous savez qu'ils en ont trois. Je ne sais pas si vous les connaissez. Hein, pour dire maladie, les Anglais, ils ont disease, illness et sickness. Alors, on pourrait s'interroger pourquoi eux, ils en ont trois et nous, on en a un seul. Et quand on creuse, on voit les définitions. Le disease, c'est la maladie biomédicale, c'est le regard clinique, ce que nous, on apprend dans nos 6 années d'études de médecine. L'illness, c'est l'expérience subjective de la personne. Et sickness, c'est l'impact social. Et on voit bien que si on ne prend pas le temps de réfléchir et d'agencer dans la prévention, le côté disease, illness et sickness, on passe à côté de quelque chose. Donc, il est vraiment important de prendre en jeu ces trois considérations pour faire de la prévention. Surtout que, ben oui, faut faire d'alliances thérapeutiques. Ça veut dire que je dialogue, je discute, je prends en compte. Ça serait tellement simple, hein, en médecine, si on travaillait sur des gens qui nous obéissaient. Hein. Ça serait tellement bien, ça serait tellement facile, on serait tellement soulagé dans la complicité. Or, il faut absolument tenir compte de l'autre. Et je racontais tout à l'heure une petite anecdote importante qui n'a pas à voir directement. C'est une dame qui est venue me voir pour une hypertension sévère. Elle est venue voir pour un maux de tête. Je lui prends la tension. Elle avait 24-13 de tension. C'est simple pour être médecin. La technique, c'est très simple. On a 24-13 de tension. Vous êtes médecin généraliste dans votre cabinet. Vous ne posez pas de questions métaphysiques. Allez aux urgences, madame. Voilà, c'est simple. Hein. La consultation m'a duré 3/4 d'heure. Et c'est pas parce que c'est pas le savoir biomédical qui était besoin. S'il était 11h15 quand elle est arrivée, elle m'a dit bah oui, aux urgences, vous êtes bien sympa, mais moi je m'étais fait aller chercher à l'école. Et comme elle est dans un quartier où, qui n'est pas très sécure, sa priorité c'était pas elle-même, mais sa petite fille. Et là, ça a été compliqué, il a fallu rentrer dans une négociation parce que moi j'avais peur pour sa santé. Et elle me dit ok, je veux bien aller à l'hôpital, mais à condition que je rentre à 2h. Et que j'en sorte à 4 heures. Si certains ont déjà été aux urgences, vous savez très bien que l'hôpital, on n'y reste que 2 heures. Et finalement, si j'ai réussi à m'en sortir de cette consultation, alors après, j'ai essayé plein de trucs, j'ai trouvé un rendez-vous pour aller chez un cardiologue, j'étais content, soulagé. Oh, manque de peau, il fallait aller en bus dans le cardiologue, chez le cardiologue. Et ça, elle ne pouvait pas parce qu'elle avait peur du bus. Donc voilà, on pouvait rentrer assez loin dans ce genre de trucs. Et bien finalement, j'ai quand même pris mon téléphone, j'ai négocié avec les hospitaliers qui ont accepté de l'avoir, voilà, parce que je n'avais pas d'autre choix. Mais aussi, celle à accepter l'idée, c'est que j'ai tenu compte. C'est-à-dire que j'avais ma priorité en tant que soignant, mais quelque part, j'avais entendu compte que sa priorité, ce n'était pas celle-là. Et qu'il y avait une espèce de négociation, de transaction qu'il pouvait avoir. Et puis aussi, deuxième point important, elle a cheminé. Parce qu'effectivement, quand vous annoncez d'un seul coup, il faut aller aux urgences, vous avez une tension très grave, ben c'est un coup de massue qui tombe sur la tête de la personne qui n'a pas envie d'être médicalisée. Et ça a laissé, et la semaine d'après, elle a été à l'hôpital, les hospitaliers ont voulu la garder, elle a dit non, elle est sortie, mais une semaine après, elle a accepté l'hospitalisation. Donc il y a deux choses importantes, prendre en compte ce que pense la personne, la façon, ses priorités à elle, qui ne sont pas mes priorités de soignant, et deuxièmement, laisser aux gens le temps de cheminer. Donc, vous avez bien vu que j'essaye d'être pratico-pratique, de ne pas vous sortir un peu les grandes données. Je pense que finalement, là où les sciences humaines peuvent nous aider à réfléchir, faire une autre sociologie Durkheim, que j'appelle la sociologie des professions, c'est de s'intéresser à ce que vit et ce que ressent nous en tant que soignants. Vous avez vu que c'est un peu mon fil rouge. Et il est important de réfléchir aux valeurs qui motivent. Parce que dans l'alliance thérapeutique, je vais devoir m'engager. Il ne suffit pas que je dise à la personne, allez voir le psychiatre. Il faut que je réfléchisse à comment elle y va, jusqu'où je vais, est-ce que je vais dépasser mon fameux quart d'heure pour aller un peu plus loin. Donc j'ai besoin de m'engager, j'ai besoin d'aller plus loin, et pour m'engager, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui me motive et les valeurs qui sont derrière. On va bien voir les valeurs d'autonomie, de respect de la liberté, d'un certain nombre de dangers, on verra ça tout à l'heure. Donc se poser les questions, c'est comment suis-je touché personnellement par la situation, pourquoi et comment j'agis, quelles sont mes limites, comment je gère mes émotions, comment je perçois et comprends le concept du suicide. Hein. Pour un exemple très concret, j'ai une patiente que je suivais, je devais partir en vacances, elle était à risque suicidaire, et ma collègue qui l'a vue avait moins l'habitude de gérer les suicides. Et la patiente a regardé le collègue médecin, elle a senti qu'elle n'était pas à l'aise. Et là, elle a fait la tentative de suicide parce qu'elle se sentait moins assurée. Donc, vous voyez, nos émotions, la façon dont on regarde l'autre, parce qu'il y a le langage verbal, mais il y a le langage non-verbal, mettre une main, regarder, sont des choses essentielles. Donc comment je perçois et je comprends le concept de suicide, comment je l'explique, comment je me confronte aux problèmes existentiels, aux questions éthiques. Et puis aussi, on a vu, c'est comment travailler avec les autres, parce que ce n'est pas si simple que ça, de travailler entre les différents acteurs. Alors on pourrait aussi avoir un cours sur la difficulté de travailler entre psychiatre et généraliste, ce n'est pas si simple que ça. Par exemple, nous, généralistes, on adresse des mots, on n'a jamais de retour, enfin, ce n'est pas si simple que ça. Ou alors, autre exemple, je reçois une patiente d'un psychologue qui vient me demander un mois d'arrêt de travail, je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois qu'on voit, je me sentais un peu instrumentalisé. Je téléphone au psychologue pour qu'elle m'explique un peu la situation, et le psychologue me dit, la patiente est grande, elle peut vous expliquer la situation. Donc ça tournait un peu en rond. Donc travailler en équipe, c'est aussi quelque chose auquel on pourrait se poser. Donc, un paradoxe, le suicide est connu depuis l'Antiquité, mais il n'y a pas de définition claire du suicide. Et c'est, je vous ai posé la question du problème de la maladie, mais là on fait de la question du suicide, et à mon avis on pourrait avoir un débat, mais c'est quoi le suicide, comment le définir, et c'est loin de si simple que ça. Et puis cette fameuse question, dont j'ai parlé tout à l'heure, est-ce que le suicide c'est l'ultime liberté, la possibilité de disposer de mon propre corps, ou alors la pire des lâchetés, en sachant qu'effectivement il y a des réponses simples, hein, du temps de Louis XIV du Moyen-Âge, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais le cadavre était condamné. Donc on nommait un curateur au cadavre, hein, il y a une belle ordonnance de 4 trucs, on nommait un curateur au cadavre et on condamnait. Et c'était un enjeu qui n'était pas secondaire parce que la condamnation c'était de priver d'héritage. Donc cette condamnation était importante, donc on peut aller très loin donc, dans l'idée de dire il n'y a pas de liberté totale, donc on condamne, on juge. Et il n'y a pas très longtemps d'ailleurs en France, je ne sais pas quand ça a cessé, un militaire qui faisait une tentative de suicide allait en prison, mutilation de matériel. Donc on voit très bien qu'on peut aller très loin dans l'idée, pas de liberté, et jusqu'où on va, jusqu'où on est prêt à aller dans cette idée. Un autre exemple très concret, quand j'ai commencé à travailler là où je bosse en tant que médecin, je suis dans un centre de santé, il y avait une jeune médecin, une collègue médecin qui était en souffrance. Ils l'ont surveillée 24 heures sur 24 pendant, je crois, 3 mois. Ils se sont relayés. Puis ils se sont épuisés. À un moment donné, ils ont arrêté cette surveillance. Vous devinez ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est là qu'elle a fait le suicide abouti. Et puis, il y a l'autre idée, suicide, donc la pire des lâchetés, j'y reviendrai. Voilà. Alors, je crois qu'il est important, un moment, un petit détour par l'Antiquité et de vous montrer déjà que les philosophes de l'Antiquité n'étaient pas d'accord entre eux. Donc, on a d'un côté Aristote. Pour lui, le suicide, c'est la pire des lâchetés. C'est qu'on n'a plus le courage de vivre. On est confronté à des problèmes et on est incapable. Donc c'est la pire des lâchetés. Et le suicidant est assimilé au déserteur qui déserte la cité, qui déserte le combat de la vie. Et puis on a une autre vision qui est radicalement différente, qui dit que la raison conseille de quitter la vie si les facultés nous affaiblissent trop, par la maladie, la souffrance. Je crois que c'est Sénèque qui dit, j'appelle sauf celui qui continue à vivre en grande souffrance. Donc on voit bien que dans certains cas, une position de complète condamnation et une autre de compréhension. Et puis, on a parlé de Normand tout à l'heure. Dans l'Antiquité, il y avait déjà un Normand qui s'appelait Platon, qui, dans l'ensemble, a aidé, il était plutôt dans l'idée de dire que c'est une lâcheté, mais quand même, dans certaines situations, on peut comprendre. Alors, ce qui compte, c'est que, on n'a pas, depuis l'Antiquité, on n'a pas forcément beaucoup avancé, et je crois que, de façon, ces trois modèles, on les a un petit peu en nous. Est-ce qu'il y a un meilleur modèle qu'un autre? En tout cas, je ne trancherai pas, je vous renvoie à vous tous. Ce qui compte pour moi, c'est de dire que finalement, en fonction du modèle auquel on se réfère, on n'a pas la même attitude, on n'a pas la même pratique. Si on se réfère à Aristote, on va condamner. Si on se réfère aux stoïciens, on va respecter l'acte. Et si on se réfère à Platon, on va le tolérer parce qu'on va comprendre que... voilà. Et c'est même d'ailleurs, et vous voyez qu'encore une fois, les choses sont complexes, à la fois si je me réfère à la façon dont le suicide était compris au Moyen-Âge, le suicide, pour le christianisme, était le pire des péchés, c'était l'enfer, dans je ne sais plus, c'est le 7e siècle. Mais paradoxalement, si au Moyen-Âge, le suicide était considéré comme le pire des péchés, le suicidant lui-même en est très indulgent avec lui. On faisait un exemple, alors quand je vous ai parlé un peu barbare de l'idée qu'on condamnait et qu'on triturait le cadavre, mais c'est là où, encore une fois, c'est vraiment complexe, on peut avoir l'impression qu'on regarde de façon rapide qu'au Moyen-Âge, on était extrêmement barbare. Or, en fait, on s'apercevait qu'on faisait avec très très peu de cadavres. Et c'était presque une forme de prévention, on montrait un exemple, et qu'on c'était vraiment le vagabond, celui qui était hors de la cité. Mais sinon, on arrivait toujours, quand il y avait un suicide qui arrivait au sein de la ville, à trouver une excuse de folie. Et donc finalement, on n'était pas aussi sévère. Donc à la fois le suicide, pire des péchés, et le suicidant, le moindre des pécheurs. Et ce qui est assez amusant quand on regarde le positionnement d'Aristote, des stoïciens et de Platon, c'est que derrière tout ça, il y a aussi une façon d'envisager le rôle de l'individu dans la cité. Si je considère qu'il y a une transcendance, donc que la vie appartient à Dieu, je condamne. Si je considère qu'il n'y a pas de transcendance, j'ai le droit d'exposer mon propre corps, donc je respecte. Donc finalement, notre positionnement vis-à-vis du suicide, il se réfère quand même à des positions philosophiques par rapport à la notion d'autonomie qui est essentielle. Notre vision des choses, elles ne viennent pas de nulle part. Alors après, effectivement, pendant historiquement, on a beaucoup posé de questions, c'est une idée reçue qu'on aurait pu travailler. Est-ce que le suicide est un acte de courage, un acte de lâcheté? On a toujours cette idée, on a mis la souffrance. Mais je pense que mes idées, elles restent un peu en couche. On a toujours l'idée du courage, de la lâcheté derrière tout ça. Le problème, c'est que là, on en arrive au jugement moral. Et ça, la grande avancée au cours du XIXe siècle, c'est que le suicide ne relève plus du juge, mais relève du médecin. On passe à la souffrance. Donc on ne juge pas, parce qu'effectivement, le jugement moral est délétère. Et il ne permet pas de comprendre la complexité de la souffrance et du parcours intime de la personne. Alors, de nos jours, qu'est-ce que dit la philosophie ? Elle pose la question de la légitimité, elle pose la question du respect, mais surtout, je crois que c'est intéressant, c'est qu'elle invite à une réflexion épistémologique. Et que on s'aperçoit que se suicider, c'est de se donner la mort. Et qu'on s'aperçoit qu'il y a deux mots qu'on n'oppose pas, c'est suicide d'un côté et sacrifice de l'autre. Et qu'il y a un regard social sur l'acte en lui-même. Et autant le suicide est connoté extrêmement négativement, quand quelqu'un est suicidaire, à la limite, quand une société ou qu'on la comprend suicidaire, c'est franchement qu'on fait, au-delà de la souffrance, c'est qu'on fait vraiment n'importe quoi. Et puis quelque part, il y a un autre mot qui est le courage. Et quand finalement quelqu'un va sacrifier sa vie pour quelqu'un d'autre, et bien effectivement, de façon à l'opposé, c'est connoté de façon extrêmement positive. Donc, on peut se poser la question, et c'est à ça que nous invite la philosophie aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un acte identique peut à la fois être connoté négativement et être connoté positivement. Et il y a un exemple que je trouve très intéressant, puisqu'ils se sont beaucoup posé cette question au XIXe siècle, une espèce de casuistique des cas de suicide. Donc ils ont fait une espèce de liste de tous les cas où le suicide, on allait en enfer, où le suicide était valorisé. Et il y a un exemple, je trouve, le plus symbolique, c'est l'exemple du Titanic. Je crois que beaucoup ont dû voir le film, il date un petit peu. Donc le Titanic, là, il fait naufrage. Il y a deux personnes, le jeune homme, la jeune fille, ils sont dans l'eau, il y a une planche. Un qui va survivre. Et donc, dans la casuistique, et ça, c'est Minois qui montre ça dans son bouquin, l'histoire du suicide, si le jeune homme monte sur la planche, qui voit arriver la jeune fille, il descend de la planche, il laisse la place, c'est un suicide, il va en enfer. À l'opposé, si ils arrivent tous les deux devant la planche, il laisse monter la jeune fille, il a fait un acte courageux, il a fait un sacrifice, et il va au paradis. Je caricature un petit peu, mais on voit bien que la différence entre les deux actes, je ne la connais pas, mais on voit bien qu'il y a toujours, et ça que c'est important, un regard social pour juger l'acte. Et c'est ça que je vous invite à réfléchir. Et derrière tout ça, encore une fois, cette pratique, on ne peut pas s'empêcher que le courage, quand même, c'est une notion extrêmement valorisée. Et quand j'insiste, le père qui va sacrifier sa vie pour son enfant, ça pose problème. Vous allez voir que le débat est encore plus complexe que ça. On pose la question de la place du sacrifice, que sacrifier c'est suicider, encore une fois, on reprendra la question. Ce qui compte dans l'approche épistémologique, c'est qu'il y a plusieurs approches, l'approche psychiatrique dont on a parlé, l'approche sociologique, et une approche dont on a moins parlé, qui est l'approche stratégique, le fameux appel au secours. Alors, dans cette approche psychiatrique, on a vu qu'elle a évolué dans deux temps. Jusqu'à la conférence de consensus, en gros, c'était relativement simple. En gros, le suicide était l'évolution fatale d'une pathologie mentale. C'était simple, c'était linéaire. Et donc même cette conception psychiatrique du suicide ont évolué, puisqu'on est arrivé à ce que j'appelle le modèle biopsychosocial, qui est le modèle dominant, c'est ce qu'on a vu apparaître. Le suicide résulte d'une perturbation du système de régulation qui assure la continuité entre l'intégrité de l'être au niveau corporel, psychique et social, et c'est l'aspect protéiforme. Cependant, ces deux définitions, il y a toujours l'idée que le suicide, il n'y a pas de délibération. À côté une victime. Un suicidant est victime de... Oula. Le suicidant est victime de forces psychiques qui le dépassent. Il ne délibère pas, il n'y a pas de volonté. Alors, on arrive à un petit clin d'œil à Durkheim, qui pour lui... Alors, il y a eu un grand combat au XIXe siècle, on a opposé l'approche psychiatrique, l'approche sociologique. Est-ce que le suicide est un problème individuel, une histoire personnelle, ou est-ce qu'il y a un impact sociologique ? Alors, il a fait des études, des statistiques, et il a démontré qu'effectivement, il y avait un impact, et qu'effectivement, en fonction de la religion, en fonction de l'isolement, du divorcé, etc., si on était veuve ou divorcé, il n'y avait pas le même nombre de suicides. Et donc, il a défini quatre types de suicides, le suicide égoïste, le suicide altruiste, le suicide anomique et le suicide fataliste. Et ce qui est intéressant dans ces quatre suicides, c'est une typologie qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est de montrer que si l'idée de départ de Durkheim, c'est que la société, il y avait des sociétés suicidaires, du facteur suicidogène, mais ce que je trouve intéressant, c'est que pour Durkheim, on se suicide quand on n'est pas intégré, et là on a des exemples, suicide égoïste, on a des exemples, on est isolé, on voit permanence, mais on se suicide aussi quand on est trop intégré. On peut se poser la question de quelqu'un qui, certains ont peut-être vu le film Danse avec les loups, le soldat courageux, qu'est-ce qui se passe derrière, voilà. Et puis il y a le suicide anomique, alors ça c'est quand il n'y a plus de règles. L'anomie, c'est quand j'ai tellement de désirs que la société ne me cadre pas, que je veux me suicider. Et maintenant, l'anomie s'est transformée en disant, c'est quand je n'arrive pas à me réaliser soi-même que je suis à risque de suicide. Donc, ce qui est intéressant dans l'idée de Durkheim, c'est que pour lui, il explique que la société porte un rôle, elle peut être pathogène quand elle n'intègre pas assez ou quand elle intègre trop, quand elle met des règles ou quand elle ne met pas trop de règles. Et vous allez voir que tous les sociologues ne sont pas d'accord. C'est pour ça que je vous donne les éléments du débat.
Et il vous reste 3 minutes.
Ouh là 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 là. Bon, j'ai accéléré. Donc, juste ces définitions. Et juste pour vous les montrer, vous voyez bien qu'il y a un désaccord entre sociologues. Et que l'un, et c'est là qu'on pourrait avoir un débat qui serait très intéressant, l'un inclut le sacrifice, qui est Durkheim, et l'autre l'exclut. Et donc on pourrait débattre, hein, c'est les kamikazes, terroristes, on pourrait avoir un débat intéressant là-dessus. Moi je suis encore une fois pas là pour vous dire quelle est la définition qui est la plus vraie, pour vous montrer déjà que la définition c'est pas si simple que ça, qu'on veut vraiment prendre le temps de définir le suicide, et ça me paraît important de se poser la question des définitions. La définition qu'on retient le plus, c'est celle de Bechler, la dernière. Le suicide désigne tout comportement qui cherche et trouve la solution d'un problème dans le fait d'attenter à la vie. Donc, on cherche à trouver une solution à quelque chose. Alors, j'avance un peu plus vite. Alors, le fameux appel au secours, qui est quelqu'un ne va pas bien et il ne sait plus comment dire, et donc il fait cette espèce d'appel au secours et ça marche très bien. Mais c'est une vision que le suicide n'est plus centré sur la personne même, mais c'est de considérer qu'il y a une dyade, le suicidant et son entourage. Et donc c'est une vision totalement différente. Pour la pratique, c'est que finalement, on n'a pas la même vision en fonction qu'on se réfère à tel modèle ou à tel autre. Est-ce que je vois le suicidant comme une victime ou alors est-ce que c'est un sujet autonome ? Je ne dis pas, il peut être l'un ou l'autre, mais si quelque part, comme volontaire, on a porté l'intention, si j'entends pas à un moment donné que quand je me suis dit j'ai porté une intention, que je ne l'entends pas, ça peut nous interroger si je le vois uniquement comme une victime de force sociale ou de force psychologique. La question que de la souffrance ou la question du sens que porte la personne, suicide au travail, est-ce que j'ai voulu dire quelque chose en me suicidant, même si derrière il y a la souffrance ? Vous voyez très bien, je reviens à la complexité. Est-ce qu'on privilégie l'approche psychologique ou sociétale ? Suicide dans une entreprise, j'appelle le psychologue ou je transforme le management dans l'entreprise. Ce n'est pas tout à fait pareil. Est-ce qu'on privilégie l'approche médicale ou biopsychosociale ? Et c'est peut-être l'élément important pour moi, où on se retrouve prisonnier en tant qu'acteur, c'est que moi j'imagine un petit peu cette logique en tension. Est-ce prisonnier de deux règles éthiques qui sont aussi importantes l'une que l'autre ? Le respect de l'autonomie de la personne ou la non-assistance à la personne en danger. Et on peut être dans une espèce d'injonction paradoxale ou paralysée. Je respecte son autonomie ou je n'assiste pas. Et je trouve qu'il y a une façon de s'en sortir, ce que j'appelle la gestion de la logique en tension, c'est de dire, l'un m'empêche de m'enfermer dans la logique de l'autre. Donc c'est ce que j'appelle la complexité. Le respect de l'autonomie de la personne me dit qu'on est dans l'approche entre patients, que je ne suis pas le professionnel qui sait tout à la place de l'autre. Donc, à un moment donné, je dois vraiment écouter l'autre, lui donner la parole et m'appuyer dessus. Je ne suis pas le soignant qui sait tout, je ne suis pas le clinologue clinicienne. Et puis, évidemment, la non-assistance à personne en danger me permet de dire qu'il y a des limites et que je suis là pour un soignant et qu'à aucun moment je peux savoir si finalement l'autre a fait un choix rationnel, je n'en sais strictement rien. Et moi, le pari que je dois tenir en tant que soignant, c'est qu'il y a une autre solution et que je peux l'aider à trouver. Donc, tenir compte de ces deux éléments.
Voilà. Alors, il y a des limites, docteur, et nous avons atteint les limites de votre intervention.
Alors, je termine. L'idée de dire, je reviens à la complexité, si le modèle biopsychosocial est plus proche de la réalité, il a un inconvénient, il rend notre travail de soignant beaucoup plus complexe. Et ça, il faut qu'on en tienne compte. Donc, 3 types d'intervenants. Et ça, c'est Michara qui avait dit ça au Québec. Est-ce que je suis un interventionniste, j'interviens jusqu'au bout ? Est-ce que je suis un libertaire ? C'est-à-dire, à un moment donné, je fais de la prévention du suicide, mais je m'arrête. Et puis, il y a le Normand qui, à un moment donné, va jusqu'au bout dans certaines situations.
On retrouve le Normand, voilà.
Voilà. Voilà. Et je finis, voilà, en disant que pour moi, c'est ça important. On peut faire tout le monde peut faire de la prévention du suicide, mais ensemble. Je vous remercie.